On a maintenant une révolte contre Moshe Rabbeinu, contre Hachem. Celui qui commence cette révolte, c'est un certain Korach. C'est un cousin de Moshe Rabbeinu. C'est un Lévi. Et viennent avec lui deux tristes sires que on connaît depuis le début. Ils sont Datan et Aviram. Datan et Aviram sont les deux qui ont dénoncé Moshe à Paro quand Moshe a tué l'Égyptien. C'est des gens, je m'étais souvent demandé comment ils ont fait pour traverser la mer. Comment ils sont sortis d'Égypte, ceux-là? Ils sont quand même, ils n'étaient pas volontaires pour sortir. Alors, j'ai vu, en réalité, ils sont venus avec l'armée de Paro. Et quand ils ont vu que ça tournait mal pour l'armée de Paro, ils ont retourné leur veste. Ils sont sortis avec les Bnei Israël. Comment Hachem a laissé faire, etc. Tout ça, j'en sais rien. Mais voilà, ils sont là. Donc, eux, ils sont des Bnei Eliav. Et On Ben Pelet, tout ça, ils sont tous ici des Réhouvénites. Des gens de la tribu de Réhouven. Rachid annonce tout de suite que cette paracha, elle est bien expliquée, elle est bien étudiée dans le Midrash de Rabbi Tanhuma. Il y a un Midrash qui s'appelle Midrash Tanhuma, dans lequel on s'étend assez longuement sur cette paracha. Ça commence par Vayikach Korach. Korach a pris. Et on ne voit pas qu'il ait pris un quelconque objet. On ne voit même pas d'ailleurs qui ils ont pris. Parce que c'est Vaïkar Korach et aussi Datan et Aviram. Et On Ben Pelet, ces trois groupes-là sont tous décrits comme étant des gens qui vont prendre. Et qui veulent prendre. Et comment on prend? Si on prend un objet, alors on sait, on prend l'objet avec les mains. Le mot Vaïkar, ici. Rachid dit, comme il n'y a pas de sujet, enfin, plus exactement, personne n'est pris. C'est marqué Korach a pris, mais on ne nous dit pas ce qu'il a pris. Alors Rachid dit, la carte tatsmo. Le tsad echad. Liot nechlak, mitoch haeda, le horer à la keuna. Zeu shetirgem unkeles. C'est pour ça qu'Onkeles a traduit, vous voyez la traduction d'Onkeles, le premier mot, va être palag. Plag, c'est la moitié. Il s'est séparé. Il s'est séparé du reste du peuple. Pour le horaire à la Keuna, pour protester, pour contester la Keuna. Nechlag mishar haeda leharzik bemachloket. Il s'est séparé du reste du peuple pour tenir dans la machloket. ramène le Tanchuma aussi. Et il ramène Davar Acher, autre chose. Vaikar Korach, Mashach, Rashi Sanedraot, Shebahem, Medvarim. C'est-à-dire, il a attiré les chefs des tribunaux d'Ebné Israël avec des paroles. Comme on voit effectivement que le mot kach, kicha, s'applique à des paroles pour entraîner quelqu'un, pour attirer, entraîner quelqu'un. C'est marqué kach et Aaron, krui machem dvarim, comme on dit dans la haftara de Shabbat Shuva. Qu'est-ce qu'il a fait? Donc, ou bien on nous dit il s'est pris lui-même, où il a pris d'autres gens. Il y a encore un autre usage du verbe, l'expression verbale de Vaïkar, par exemple, ça peut vouloir dire prendre une femme. Vaïkar ish isha. Un homme a pris une femme. Il a épousé une femme. Mais c'est toujours, comment est-ce qu'il l'épouse? Il faut qu'il lui parle. Il l'attire ou il la convainc, ça par des paroles. Donc ici, on est dans les paroles toujours. Ou bien il a convaincu en leur parlant, il a convaincu les chefs de Sanhedrin, on va voir ce que ça veut dire, chefs de tribunaux. Ou alors il s'est pris lui-même au sens, il s'est séparé de la Héda. S'est séparé de la communauté, enfin du peuple, en fait. Et curieusement, il est horaire sur la Keuna. Ça veut dire, il conteste la nomination d'Aaron. À la limite, Aaron, c'est un Lévi d'origine, comme Moshe, comme Korach. Et Aaron a été sorti de son état de Lévi, il est devenu Cohen, lui-même devenu Cohen Gadol. Et donc, Korach va critiquer la nomination d'Aaron. C'est comme ça que ça commence. Et alors, pourquoi ça? Voilà, c'est la critique. Mais quel est le déclencheur de tout ça? Alors d'abord, il y a une première chose qu'on a déjà un peu entendue, c'est que Korach, ici, curieusement, on dit qu'il est assez loin, c'est-à-dire il est Ben Itzar, Ben Kehat, Ben Lévi. On donne le nom de son père, on donne le nom du grand-père, et l'arrière-grand-père. Ça remonte jusqu'à Lévi. Tant qu'à faire, on aurait pu remonter jusqu'au père de Lévi, c'est-à-dire Yaakov. Lévi, c'est un des fils de Yaakov. Et pourquoi est-ce que ça s'arrête et Yaakov n'est pas mentionné? Parce que, rapporte Rashi, Yaakov a demandé, il a prié, « Bikesh rachamim al atzmo » pour qu'on ne mentionne pas son nom sur leur machloket. Bon, Rashi dit où est-ce qu'on mentionne, Korach. Dans Divrei Hayamim, dans la mention de Korach dans Divrei Hayamim, que Rashi ramène, alors Korach est présenté ici, on parle en fait de descendants de Korach. On dit Ben Abiasaph, Ben Korach, Ben Itzar, Ben Kehat, Ben Lévi, Ben Israël. Là, on mentionne Jacob avec son nom d'Israël. Pourquoi? Parce que là-bas, on mentionne, on est parti d'un descendant de Korach. Et donc, on n'est pas passé par la Mahloket. Mais ici, comme on parle de la Mahloket, Jacob a demandé à ne pas être mentionné dans cette affaire. Donc, ça s'arrête ici. Datan et Aviram sont mentionnés. Ishvil Shaya Shevet Reuven. Alors, Rashi explique pourquoi. Pourquoi les gens qui sont dans le parti de Korach sont des gens de la tribu de Reuven. Rashi dit, parce que la tribu de Reuven était Sharoui Bechaniatam Temana, Sheken Shachen Lekahat Ubanav, Achonim Temana, Asnishtatfu im Korach Bemachlakto. Parce que Oye le Racha, Oye le Shreno. Rashi dit, vous savez, quand les Bnei Israël campaient, la tribu de Reuven, elle campait au sud. Ça, c'était dans le camp des tribus. À l'intérieur de ce camp-là, il y avait le camp de la tribu de Lévi. Et dans ce camp de la tribu de Lévi, ils étaient aussi organisés. Et ceux qui étaient au sud, c'est Kehat. La tribu de Kehat. Enfin, la famille de Kehat, et donc, ils étaient voisins, les uns en tant que Lévi, les autres en tant qu'Israël, mais ils étaient voisins, tous les deux étaient au sud. Et comme on sait, donc, c'est Kehat, et Korach fait partie des Kehatim, Benitzar ben Kehat. Bon, Rashi a l'air de présenter les choses comme un phénomène dû à l'environnement, quelque part. Pourquoi est-ce que les gens de Reuven sont dans cette mauvaise équipe-là? Parce que c'est les voisins. Et il y a un principe qui dit « Oy le Racha, Oy le Shreno ».« Oy le Racha, Oy le Shreno », c'est une expression qui est utilisée dans la situation suivante. Quand quelqu'un avait de la lèpre sur sa maison, alors il y avait toute une procédure, et à un moment donné, il pouvait se trouver qu'il fallait détruire complètement la maison. Si la maison était mitoyenne avec quelqu'un d'autre, ben, le mur mitoyen, il était détruit. Et donc le voisin, il avait son mur qui était détruit. C'est ça qu'on dit, oh, il est rachat, malheur au rachat, parce que, et malheur aussi à son voisin. Le voisin, il va se trouver défavorisé, en fait, parce que on a cassé son mur. Le mur était mitoyen avec la maison lépreuse. Et donc là aussi, on veut dire, c'est le voisinage de Korach qui a entraîné les gens de la tribu de Reuven dans cette mauvaise affaire. Alors, tel que c'est présenté ici, ça, on ne comprend pas vraiment. Pourquoi est-ce qu'il y a une marloquette? Alors, pourquoi? Parce qu'on est voisins, alors on est aussi pris dans la marloquette. Ils ont été à ce point-là influencés par le voisinage. C'est un peu difficile à comprendre. Alors maintenant, Rashi demande « Uma ra'a Korach l'achlokim Moshe ?» Contester la Kehuna, c'est contester Moshe Rabbeinu, parce que c'est Moshe qui a, enfin sur le terrain, c'est Moshe qui a nommé Aaron. C'est Moshe qui a installé Aaron dans son rôle de Kohen, vous vous souvenez? Et donc, c'était une dispute contre Moshe, en fait. Le prétexte, c'est la Kehuna, mais c'est contre Moshe. Alors, Rashi dit, la vraie raison, c'est pas Aaron. La vraie raison, c'est, regardez ce que Rashi dit, il dit que Nitkana al nesiuto shel Elit Safan ben Uziel, Sheminehu Moshe Nasi al Benekeat al Piadibur. Les tribus, les sous-tribus, etc., ils avaient toujours des princes qui les représentaient, qui les dirigeaient. La sous-tribu de Kehat, la famille de Kehat, qui est une des familles de Lévi, avait besoin d'un prince, de quelqu'un qui allait les diriger. Et dans les descendants de Kehat, il y avait une branche dans laquelle il y a Korach, c'est la branche de Yitzhar, mais il y a d'autres branches. Et Moshe Rabbeinu a nommé responsable de Kehatim quelqu'un de la branche, de l'autre branche, pas de la branche de Korach. Alors Korach a contesté, il a dit, ça marche pas. Achi Abba, Arba Achi, pardon, Achi Abba, Arba Ayu. Les frères de mon père, ils étaient quatre. C'est marqué Ubne Kehat, et on donne leur nom. Amram était le plus âgé. Alors Korach dit, voilà, Amram, ses deux fils ont des positions dirigeantes. Les deux fils d'Amram, c'est-à-dire Moshe et Aaron, sont les super dirigeants. Echad est Melech et Echad Kohen Gadol. Un est roi et l'autre est Kohen Gadol. Miraou Ilitol et Ashnia, qui normalement devrait prendre la deuxième place. Alors, Annie, n'est-ce pas moi? Chez Annie Benitsar, chez Ushenil et Amram. Le frère qui vient immédiatement après Amram, c'est mon père, Itzar. Et donc, c'est moi qui suis l'aîné de Yitzhar qui devrait être chef de tribu. Si vous voulez, le nouveau poste à pourvoir dans la liste, le poste de chef de tribu, chef de la sous-tribu de Kehat, il doit être attribué à un descendant du deuxième fils de Kehat. Le premier, Amram, il a tout pris, quoi, quasiment. Et après, c'était moi. Logiquement, c'est imparable le discours de Korach. Vehu, et c'était moi qui aurais dû être nommé. Vehu, Moshe, mana nasi et ben achiv akatan mikulam. Et Moshe, il a choisi un descendant du plus jeune des quatre fils de Kehat. Areni cholek alav, ou mevatel et dvarav. Eh bien, je m'oppose à lui et je déclare que ce qu'il dit est nul. Voilà, c'est un argument. Seulement, Rashi a dit que la nomination de Litzafan, elle s'est faite al-pi adibour. C'est pas Moshe qui a décidé. C'est Hachem qui a ordonné à Moshe de nommer Litzafan. Mais bien sûr, Korach, il fait comme si Moshe était libre de faire ce qu'il voulait. Et du coup, il va dire, bon, alors il était libre de faire ce qu'il voulait, donc il s'est attribué la royauté, il a donné la Kohen Gadola à son grand frère, et maintenant, il donne à qui il veut le poste de chef de Kehat. Il n'a pas le droit. C'est pas. Il y a une hiérarchie, il y a un ordre dans la famille. Comment se fait-il qu'il puisse me court-circuiter comme ça? C'est qu'en fait, C'est du népotisme, si vous voulez. Il choisit qui il veut. C'est pas vrai que c'est Hachem. Donc ça conteste tout, y compris la Kehuna. En fait, ça conteste même Moshe. Alors, Korach, maintenant, il s'organise. Mais à ça, qu'est-ce qu'il fait? Amad vekanas mataim vechamishim rachet sanedraot. Il a rassemblé 250 chefs de Sanhedrin, chefs d'un groupe. Et Rouban, la majorité d'entre eux était Mishevet Rouven. Shrenav. La majorité était des gens de la tribu de Rouven, son voisin, ses voisins, les voisins de Korach. Et qui était-ce? Eh bien, c'est Elitsur ben Jdeur ben Chaverav. Elitsur ben Jdeur, c'est le nasi de Rouven. Ses copains, etc. C'est marqué, donc, Nesiye Haeda. Pasuk dit, vous regardez le pasuk bet, d'accord, il dit, Ve'yakumu lifne Moshe ve'anashim mibne Israël, Khamishim Momataim Nesie Eida, 250 princes d'Israël, donc, Kriye Moed, Anchechem. Donc, voilà, les princes sont là. Et il bichan talitot shekulan tchelet. Et il les a revêtus de vêtements qui étaient entièrement en tchelet. Tchelet, c'est la couleur du fil dans les tzitzit. On a vu dans Parshat Shlach Lecha, on a vu que un des fils, en gros, si vous voulez, le fil avec lequel on tourne, quand on fait les nœuds, etc., des tzitzit, c'est de la laine teinte en trélet. Alors, cette couleur de trélet, traduit à bleu, azur, vous voulez, c'est une couleur qui est très utilisée au Beth Amikdash. Il y avait des tentures entièrement en trélet aussi. La couleur, on l'a produit à partir d'un coquillage. On a perdu la recette, on n'est plus sûr de. Et donc, en fait, on a des tzitzit qui sont entièrement blancs. C'est-à-dire, ils ne sont pas de couleur. Et bon, le trélet n'est pas me'akev, ça veut dire, on fait la mitzvah tzitzit quand même. On ne l'a fait pas parfaitement, mais on l'a fait quand même avec ça. Aujourd'hui, il y a des gens qui me disent que on a trouvé suffisamment de preuves archéologiques, en quelque sorte, pour nous dire quelle créature marine donne cette couleur, et ils produisent de trélet. Bon, c'est pas grave parce que c'est pas pire que du blanc. Même à supposer que c'est faux, que c'est pas ça la trélet, c'est pas pire que de l'avoir laissé blanc. Donc il y a rien à redire, si vous voulez, pratiquement. Sauf que on n'a pas de Kabbalah, donc en général, quand on n'a plus de Kabbalah, on fait pas les choses. La plupart des grands décisionnaires ont décidé que c'était, on n'a pas. Ils ne disent pas que ça ne l'est pas, ils disent simplement que comme ça ne correspond pas à une Kabbalah, on n'a plus. Alors on ne le fait pas. Mais il y a des gens très sérieux qui le font, qui utilisent ce bleu. Et donc, qu'est-ce qu'il veut faire? Il montre, si j'ai un vêtement qui est entièrement en trélet, ils vont poser la question, est-ce qu'un tel vêtement a encore besoin dans cette city d'un fil de trélet? si la couleur de Trélet a une fonction, ben alors le vêtement lui-même, il a cette fonction. Ils ont un costume qui est entièrement en Trélet. Ouais, il faudrait mettre des tzitzit en Trélet, un fil de Trélet. Tu mets des tzitzit blancs ou Trélet entièrement, mais est-ce qu'on a vraiment besoin d'un fil de Trélet? Alors, ils sont allés provoquer Moshe Rabbeinu en lui demandant, est-ce que ce vêtement-là, il a besoin d'un fil de Trélet dans les tzitzit? Moshe Rabbeinu a dit oui. Et donc, ils ont tourné en ridicule la réponse de Moshe. En disant, si un fil peut dispenser tout un vêtement, alors si le vêtement est tout entier en Trélet, il n'a pas besoin de ce fil. De la même manière, il va faire la même chose avec, par exemple, le problème de la mezouza. Si j'ai une chambre, une pièce qui est entièrement remplie de sfarim, de livres, est-ce que c'est nécessaire de mettre encore un petit livre à l'entrée de la maison? Une mezouza. Il demande à Moshe, Moshe dit oui, et même chose. Il se moque de... Il dit que Moshe se fiche de nous, quoi. Alors, du coup, Moshe Rabbeinu, donc ces gens se sont rassemblés contre Moshe avec ces provocations-là de Talit et Mezouza. Vaikalu al Moshe ve al Aaron, vayomru alehem rav lachem. Vous en prenez trop. On dit, vous prenez trop de choses. Kikola Eda Kulam Kudoshim. En vérité, toute la Eda, tout le peuple est Kadosh. Ou Betocham Hashem. Et Hashem réside au milieu de ce peuple. Ou Madoua Titnasual Kal Hashem. Pourquoi, de quel droit est-ce que vous vous mettez au-dessus de l'assemblée d'Hachem? Rashi dit, Kulam Kudoshim, m'excuse, j'ai sauté le précédent, Rav Lachem, Arbe Yoter Midai, Lakartem Latzmechem Gdula. Vous avez pris beaucoup trop de postes importants pour vous. Kulam Kedoshim, tout le peuple est saint. D'où vient la sainteté? Kulam Shamu, Dvarim, Besinaï, Mipia, Gvura. Tout le monde a entendu au Sinaï la parole d'Hachem. Ils sont tous Kedoshim. Nous sommes tous Kedoshim. Umadua titnasu. Mais pourquoi est-ce que vous vous élevez au-dessus du peuple? Im la karta ata malchut. Si déjà toi tu as pris la royauté pour toi. Loyalecha varer leachicha keuna. Tu n'aurais pas dû donner à ton frère la keuna. Vous n'êtes pas seul à avoir entendu au Sinaï Hashem, Anochi Hashem Elokecha. Je suis Hashem ton Dieu, etc. Donc, c'est beaucoup de drachot qui viennent de ce Tanakhuma. Donc Rashi avait dit tout de suite au départ que le Tanakhuma, il est vraiment d'oresh très bien cette paracha. Qu'est-ce que... Qu'est-ce que Moshe fait? Moshe Rabbeinu, Vaishma Moshe, Vaipol Alpanav. Il s'est jeté à terre, en face contre terre. Pourquoi est-ce qu'il met sa face contre terre? Rachidim Ipnea Machloket. Shekvar Zé Yadam Sichon Revi. C'est déjà le quatrième dévoiement, la quatrième déviation. Il y a la faute du veau d'or. Et là, Vayachel Moshe, à ce moment-là, Moshe Rabbeinu est intervenu. Dans les mitonnim, donc tout de suite, quand ils ont commencé à rouspéter à cause de l'eau, Bait Palel Moshe, alors Moshe a prié, Bar Meraglim, Vayomer Moshe El Hachem, Beshamoum Israël. Donc, quand Hachem a menacé de détruire complètement le clan Israël, Moshe est intervenu, il a dit, mais ce sera un énorme Chilul Hachem. Donc, il a obtenu leur grâce. Ils sont pas, le clan Israël n'a pas été complètement anéanti. Donc, ça, c'est la quatrième. Ici, Bemachlokto shel Korach, Yitrashlu Yadav. Et maintenant, avec cette machloquette de Korach, Moshe Rabbeinu n'en peut plus. Machal le Ben Melech, chez Sarach al-Aviv, parabole, le fils du roi s'est détourné de son fils, de son père, ou pièce à lave. Ohavo, Pam, Ushtaim. Et l'ami du roi est intervenu et il a apaisé le roi une fois, deux fois, trois fois. La quatrième fois, il trachelou Yedeaoev. Quatrième fois, l'ami du roi, il ne pouvait plus rien faire. Amar, admatai, atriach alamelech. Jusqu'à quand est-ce que je vais fatiguer le roi? Shemon le kabel od mimeni. Peut-être cette fois-ci, il n'acceptera plus. Je ne vais plus essayer. Donc, mon cher Rabbeinu met sa face contre terre. Quelque sorte, c'est comme si, bon, comme s'il voulait disparaître, face contre terre, il s'enterre littéralement. Je peux plus rien faire, c'est impossible. Bon, malgré tout, Vaïdaber el Korach. Et mon cher Abbé nous parle à Korach, Velkol Adato, et à toute sa Eda. Je vous ai déjà dit plusieurs fois, Eda. Dans le mot Eda, il y a la racine Ed. Donc, c'est une communauté témoignante. Donc, c'est les gens qui sont avec lui, qui sont ses soutiens, enfin, ses fans. Et il leur dit, écoutez, Boker, au matin, vais. Yoda Hashem et Asher lo v'et Hakadosh v'écrivent à Elav. Kadosh Baruch Hu fera connaître ce qui lui appartient, celui qui est Kadosh, ce que tu dis, que tout le kol ha'edam kulam kedoshim, ve'ikriv elav, et va le rapprocher de lui, ve'tasher yifrar bo, yakriv elav. Et donc celui qui l'aura choisi, il le rapprochera de lui. Voilà, alors Moshe Rabbeinu dit, voilà, on va faire un test. Zot asu, faites ceci. Kulachem martot, prenez les encensoirs. Korach, vecholadato, Korach et toute son équipe. Utnu ba'em esh, mettez du feu. Simualem ktoret, répandez dessus du ktoret, de l'encens. Lifne Hashem, Machar, devant Hachem, demain. Vayaish Hachem, Yifrar Hachem, ou Akadosh. Et l'homme que Hachem choisira, c'est lui le Kadosh, c'est lui le Saint. Rav Lachem, Bnei Levi. C'est trop pour vous, c'est-à-dire, vous exagérez, fils de Lévi. Il leur répond, Rav Lachem. Eux, ils lui ont dit à lui et à Moshe et à Aaron, Rav Lachem, trop. Il répond, Moshe Rabbeinu répond, Rav Lachem, Bnei Levi. Et donc, Moshe s'adresse du coup à Korach et il lui dit, Shimuna, Bnei Levi, écoutez bien, écoutez, fils de Lévi, Amat Mikem, est-ce que c'est très peu pour vous? Qui dit l'éloqué Israël et trem meadat Israël la crive et trem elav, la vod et avodat mishkan Hashem, la mod l'ifne aïdal shortam. Est-ce que c'est trop peu pour vous? D'abord que Hashem vous a rapproché, vous a singularisé en quelque sorte, vous a séparé de tout le reste du peuple pour vous rapprocher de lui. Pour faire la avodat Hashem, la avodat dans le Mishkan, et pour devant, disons, en représentant de la Eda, les servir. Yakrev otcha et kol achecha, et il t'a rapproché, toi et tes frères, Né Lévi, Aïtach avec toi, ou Bigashtem gam keuna, et vous voulez aussi la keuna. La reine, pour cette raison, Atav choladatra no adim al Hashem, ve Aaron maou kitalino alav. En vérité, toi et toute ton assemblée, vous mettez ensemble contre Hashem. J'ai bien compris, c'est une révolte contre Hashem. Quant à Aaron, qui est-il pour que vous contestiez la keuna d'Aaron? Et du coup, Moshe voulait parler à tous, donc il a appelé Datan et Aviram. Vaishlach Moshe l'écroule Datan et Aviram, né Eliav. Il les a fait venir, mais ils ont répondu, on ne vient pas. L'on a allé, on ne viendra pas chez toi. Et zut, la chutzpa, Moshe Rabbeinu avait dit, est-ce peu à vos yeux, né Lévi, tout ce qu'Hachem vous a donné? Et eux, ils viennent et disent, Améat, est-ce peu qui elitanu, mais eretz zavat chalav, vous voyez comment ça se tourne. Tu nous as fait sortir d'un pays où coulait le lait et le miel. Je vous rappelle qu'il parle ici de l'Égypte, où ils étaient esclaves. Bon, eux, ils étaient des capots, ils ont peut-être été planqués. La mitenu bamidbar, pour nous faire mourir dans le désert, ils reviennent avec les mêmes arguments. Qui t'istarère, est-ce que effectivement tu voudrais encore nous dominer? Allez, nous gamistarère, nous dominer encore, tu nous as dominé jusqu'à maintenant, tu veux encore continuer de nous dominer? Aflo el eretz zavatrala voudva, Shemiatan, tu nous as même pas amené vers une terre. Qui ruisselle donc de de lait et de miel. Vatiten lanu, tu ne nous as pas donné comme en héritage Sadé, Barcarem. Tu n'as donné ni champ, ni vigne. Aene, Anashim, Aem, Tzenaker. Est-ce que tu veux crever les yeux pour qu'ils ne voient pas ce que tu fais, tous ces gens-là? L'on a allé, on ne montera pas chez toi. Alors, mon cher Abinou, Vaïchar, ça l'a affligé énormément, me hôte. Et il s'est tourné vers Hachem et il a dit Altefen el Minchatam. Ne te tourne pas vers les vers leurs menachot, c'est-à-dire, ils vont t'offrir des choses, des encens, de l'encens. Ne l'agrée pas. Lo chamor echad mehem nasati. J'ai jamais emprunté la voiture de fonction. Lo haroti et achad mehem. J'ai jamais fait de mal à aucun d'entre eux. Alors Moshe a dit à Korach, c'est intéressant, ici c'est marqué, va yomer Moshe el Korach. Il lui a parlé doucement. Avant, il lui a parlé va idaber. Ici, maintenant, il lui parle doucement à Korach, après tout le mal qu'il a dit. Il lui dit, ata vecholadatra eyu lifnei Hashem, ata vahem ve'aaron machar. Vous allez vous présenter devant Hashem. Toi, Jean et Aaron. Demain. Ukruish Martato, et prenez chacun son encensoir. Vous y mettrez donc du ktoret, donc il y aurait du feu évidemment. Vous mettrez du ktoret. Ve'graftem lifne Hashem, Ish Martato, et chacun va présenter son encensoir. 250 Martot, et toi, et Aaron, toi Korach et Aaron, chacun d'entre vous, son encensoir. Vous allez mettre du feu, vous allez mettre donc l'encens. Vayamdu petach aol moed ou Moshe et Aaron. Ils se sont tenus à la porte avec leurs encensoirs d'aol moed et Moshe et Aaron. Vaikael alehem Korach et kol laeda el petach oel moed. Et Korach a convoqué tout le monde à la porte du oel moed. Il voulait faire sa démonstration que c'est lui qui avait raison. Vaïrak vod Hashem el kol laeda. Et la gloire divine est apparue à toute l'assemblée. Et Hashem a dit à Moshe à Aaron, il leur a dit, Ibadlu mitoch haeda zot. Éloignez-vous, séparez-vous de toute cette équipe-là, des 250 plus Korach. Vachale otam karig. Je vais les détruire dans l'instant. Vaiplu al pneem vayomru. C'est-à-dire, la menace était que Hashem allait détruire le peuple tout entier. Et Moshe et Aaron ont supplié, ils ont dit, Kel Eloke Aruchot, Kol Basar, Aish Echad Yecheta, Val Kol Aida Tikchof. Ils ont dit, c'est adressé, c'est un nom divin, je sais pas. Kel Eloke Aruchot, les deux des esprits, Kol Basar, pour toute chair. Est-ce que un homme faute et ça entraînerait la colère sur toute l'assemblée? Alors Hachem a dit à Moshe, dis-leur à tous, dis-leur de s'écarter de la tente. Elo misaviv le mishkan korar datan aviram. Éloignez-vous des tentes de Korach, Datan et Aviram. dis à tout le monde, c'est loin. Vayakom Moshe, Vayalech et Datan et Aviram, Vayelchoach Rab Zikne Israël. Et Moshe est allé chez Datan et Aviram, et tous les Zkenim sont allés avec lui. Vaydaber, El Aïda les morts, Suruna Meal, Olea Anashim, Arishaim Aile. Et donc, tous les gens qui étaient là autour de la tente des trois, là, il leur a dit, dispersez-vous, éloignez-vous de ces tentes, de ces rechaïm, ne touchez rien de ce qui est à eux, de peur que vous soyez entraînés par leur faute. Et donc, les gens l'ont fait. Mais Datan et Aviram, ils sont restés droits comme des i à la porte de leur tente, avec les femmes, leurs enfants et les petits-enfants. Et à ce moment-là, Moshe Rabbeinu a fait une tfila à Hachem particulière. Il a demandé à Hachem, Bezot Tedoun. Et il leur a dit à tous. Là maintenant, avec ça, vous allez savoir. Vous allez avoir la preuve. C'est bien Hachem qui m'a demandé de faire tout ce que j'ai fait, que j'ai rien fait de ma propre initiative. Im, si, kmod kol adam yamutu ele, fkudat kol adam ipaked aleem, lo Hachem shlachani. Si ces gens meurent d'une mort normale, alors Hachem n'a pas envoyé. Donc, c'est moi qui ai tout inventé. Veim, Veya Yivra Hachem. Si Hachem fait quelque chose de nouveau, une Bria, que la terre va s'ouvrir, elle va avaler ces gens-là et tout ce qui est à eux. Ils vont descendre vivant dans le Sheol, la résidence des morts. Vidatem, ki niyatsu anashim arelet Hashem. Alors vous saurez que ces gens-là ont blasphémé, ils ont provoqué Hashem. Et quand Moshe a eu fini de parler, la terre s'est ouverte sous les pieds de ces gens. La terre a ouvert sa bouche, littéralement, et les a avalés, et leur maison, enfin leur tente, tout ce qu'ils avaient, ce qui était à Korach, et tous ses biens. Ils sont descendus vivants dans le Sheol. Et la terre s'est refermée, et ils ont disparu. Et tous les Bnéisraël qui étaient là autour, Nassou, le Kolam, et tous les gens qui étaient là autour, ils sont partis, ils sont enfuis. On entendait les cris de ces gens qui entraient dans le Sheol vivant, qui ambro pentivlaenu aretz. Ils sont partis, ils sont nés de peur que la terre, elle aussi, enfin, nous aussi, elle nous avale. Il y a un feu qui est sorti d'Hachem. Et qui a brûlé les 250 personnes qui avaient amené l'Ektoret. Voilà, donc c'est pas tout fini, mais on va faire une pause. Qu'est-ce qui se passe? On a de nouveau une contestation gigantesque de Moshe. Et de la même manière que les explorateurs sont morts d'une mort affreuse, etc., tout à fait extraordinaire. De la même manière, eux aussi, ils meurent de cette mort extraordinaire. La terre qui s'ouvre sous leurs pieds, et ensuite le feu qui brûle les autres. Ça veut dire que c'était nécessaire d'éradiquer complètement cette rébellion et parce que on ne pouvait pas leur faire entendre raison. Et ils contestaient toute l'histoire juive, quoi, quasiment. Ils contestent Moshe Rabbeinu, donc ils contestent Hachem, en fait. C'est ce qui a été présenté. En vérité, vous êtes contre Hachem. Donc vous cherchez des prétextes et vous ne voulez pas obéir à Hachem. C'est ce que ça veut dire. Alors ici, on a un exemple d'une théorie magnifique, en fait. La théorie de Kol Ha'Eda Kulam Kedoshim. Le peuple tout entier est saint. Et Hachem réside au sein de ce peuple. Et du coup, si tout le monde est saint, alors on n'a pas besoin de qui que ce soit au-dessus de nous. Cette sainteté, ça les relie directement à Hachem. Donc on n'a besoin de personne. Ici, Korach, qui au départ est présenté comme quelqu'un qui dit « mais c'est moi qui aurais dû être à la place d'Elie Tzafan ». Mais ça, c'est probablement ce qu'il dit ou ce qu'il dit éventuellement à Moshe. Il se dit ou il le dit éventuellement à Moshe. Mais en réalité, à tout le monde, il va leur faire une démonstration qu'il n'y a pas lieu d'avoir quelqu'un qui soit au-dessus du peuple. Une espèce de communisme radical sans aucun chef. On est tous inspirés, quoi. On a tous entendu la parole d'Hachem. De la même manière que Moshe. Donc il n'y a pas lieu, du coup. D'avoir de quelconque hiérarchie. Ça, cette histoire-là, cette théorie-là, on est tous égaux. Tous que nous chimons. Elle n'est pas tout à fait nouvelle. C'était déjà la théorie de la tour de Babel. Dans le Midrash, c'est marqué, je vous l'ai déjà dit plusieurs fois, que quand Nimrod a ramassé quasiment tout le monde, et il a dit, on est tous égaux, on va tous ensemble contribuer à l'érection de cette fameuse tour, qui va nous permettre d'aller déloger Hachem, en fait, faire la guerre contre Hachem. C'est marqué dans le Midrash que Put et Mitzrayim sont les deux peuples, probablement le Soudan, l'Éthiopie et l'Égypte, qui était la grande civilisation. Ils disent, nous, on est plus intelligents qu'eux. Donc, laissons dire, il viendra bien un moment où il y aura des problèmes, et nous, on apportera la solution, et on sera au pouvoir. Donc, la théorie de l'unité, de la non-nécessité d'avoir qui que ce soit qui nous dirige, donc c'est quelque chose qui est un vrai mensonge. Et ceux qui disent ça, c'est des gens qui pensent qu'ils sont eux plus égaux que les autres et qu'un jour ou l'autre, ils arriveront au pouvoir. Chazal disent que Korach était extrêmement riche. Il s'est débrouillé au moment du passage de la mer quand il y avait un butin absolument fabuleux. Parce que les Égyptiens étaient partis en guerre avec toute leur richesse. Et tout a été là, et Korach, c'est celui qui en a ramassé le plus. Et Korach dit, Disons qu'on n'a pas de chef. Kolaïda Kulam Kudoshim. Un jour ou l'autre, on aura besoin d'argent. Alors moi, j'amènerai l'argent et je serai le chef. Et en fait, une femme qui a bien compris l'affaire, c'est la femme de Ron Ben Pellet, le troisième groupe. Lui, il était dans la conspiration de Korach. Et puis, quand il s'est agi d'aller à la manif, quoi, sa femme, elle lui a dit, mais pourquoi tu vas à la manif? Qu'est-ce que tu as à gagner dans cette affaire? Si Korach a raison, c'est Korach qui sera le chef, toi tu ne seras jamais le chef. Et si mon cher a raison, tu seras comme aujourd'hui. Éventuellement, tu vas tout perdre parce que tu seras considéré comme un des révoltés. Alors, Honnête a dit, mais je me suis engagé. Qu'est-ce que je fais? Je suis engagé, je ne peux pas être traître, en quelque sorte. Alors, elle lui a dit, laisse-moi faire. Elle lui a dit, bon, le matin, là, quand ils viennent le chercher, elle dit à son mari, toi, tu te mets dans la chambre du fond, là. Et elle s'est mise dans la pièce de devant, enfin, la première pièce, et elle a un peu découvert ses cheveux. Et les gens de Korach, quand ils ont vu qu'il y avait une femme avec des cheveux un peu découverts, ils sont partis. Ces gens-là qui vont lutter contre Hachem, qui vont contester Moshe Rabbeinu, etc., et ils étaient très pieux. Très, très pieux. Ils n'ont pas regardé une femme qui a les cheveux un peu découverts. Elle l'a sauvé la vie à Ondel Pellet. Et Chazal disent, il y a des femmes qui enfoncent leur mari, il y a des femmes qui sauvent leur mari. La femme de Korach, elle avait un rôle très important. Vous savez, quand les Lévim ont été mis en service, alors on les a rasés de pied en cap, ça veut dire de cap en pied. On les a rasés complètement. Il n'y avait plus un poil. Tous les Lévim étaient complètement glabres. Complètement. Alors quand Korach, comme tous les Lévim, est rentré chez lui, sa femme lui a dit qu'il avait bonne mine. Ah, t'as bonne mine. Alors il a dit, mais Moshe, il se l'est fait à lui-même aussi. Elle lui a dit, il est d'accord de se le faire à lui. L'essentiel, c'est qu'il te le fasse à toi. T'as rien compris. Donc ça, c'est Madame Korach. Et d'un côté, il y a Madame Anne Ben Pellet. Donc il y a quand même quelque chose, une espèce de constante, qui est que les femmes, elles ne marchent pas dans ces combines. Pourquoi elles ne marchent pas? Elles n'ont pas marché dans l'histoire des Meraglim. On m'a montré qu'il y a un Yalkut Shimoni qui dit qu'Hachem aurait dit j'aurais dû envoyer des exploratrices au lieu d'envoyer des explorateurs. Elles aiment le pays, elles n'auraient pas dit du mal d'Eretz Israël. De toute manière, on sait qu'elles n'ont pas été condamnées à mort. On a déjà parlé de ça. Il y a une espèce de déséquilibre, probablement démographique, quand les Bnei Israël entrent en Eretz Israël. Parce qu'il y a la vieille génération encore, les femmes, mais cette génération-là, elles n'ont pas de mal. Les hommes ne correspondent. Il n'y a pas d'hommes. Ils sont tous morts. Les hommes qui avaient plus de 20 ans à la sortie d'Égypte sont morts. Mais les femmes, non. Les femmes n'étaient pas dans le veau d'or. Il y a quand même quelque chose, on peut le dire ici, c'est un cours d'homme, il y a quelque chose qui ne va pas. Quoi. C'est difficile de comprendre pourquoi. Pourquoi c'est toujours les hommes qui font tout foirer. Quoi. Alors, je n'ai pas la réponse. Mais c'est quand même marrant, quoi. Je sais pas comment c'est. C'est quand même spécial, cette histoire. Je sais pas. En tout cas, Korach, effectivement, était effectivement très riche. Et donc, il a monté toute une théorie qui était une façon pour lui d'arriver au pouvoir sans dire ouvertement qu'il voulait le pouvoir. Après, il va être obligé d'accepter le pouvoir parce que c'est moi qui ai financé tout ce qu'il faut, donc c'est normal que j'ai le pouvoir. C'est comme ça qu'il réfléchissait. Le Rav Volbeï disait que chaque fois qu'il y a une théorie qui vient comme ça, il faut toujours essayer d'aller regarder quel est le déclencheur et quelle est la mida qui est à l'œuvre. Là, le déclencheur, c'est la nomination d'Elitsafan. La mida, c'est à la fois la jalousie, essentiellement la jalousie, et du coup la volonté du pouvoir. Et ça part de la jalousie, en fait. On a l'impression que rien ne se serait passé s'il avait été nommé chef de la sous-tribu de Kehath. Je sais pas, on ne sait pas exactement quel est le grand privilège de ces chefs, quoi. Et ça ne pouvait pas être l'argent. Parce qu'il en avait, bon, on dit toujours, même celui qui a 100, il veut 200, mais de l'argent, il en avait suffisamment, donc a priori sa motivation c'est pas l'argent. Et je me demande si la théorie elle est pas venue après, c'est-à-dire il y a la jalousie et puis après il faut, comment est-ce qu'on peut être jaloux? Mon cher Rabbi lui dit que c'est Hachem qui a ordonné. Alors, il faut contester, parce que qu'est-ce qu'il va dire? Il dit, c'est moi qui aurais dû être nommé. Il répond, c'est Hachem qui a décidé, c'est pas moi. C'est terminé. Or, Korach, il est jaloux, il veut vraiment ce pouvoir de chef de Kehath qui, je pense, ça nous paraît un peu dérisoire, faire toute cette révolution, prendre ce risque, etc. Chazal disent, Korach, et Pikea, Haya, Maraal, Shtutze. Korach était considéré comme très picard, comme un type très intelligent. Comment il s'est pris lui-même au piège? Vaïkar Korach, il s'est pris lui-même. On a l'impression qu'il s'est excité tout seul. Il n'y avait pas de quoi s'exciter tellement pour cette histoire de pouvoir. Peut-être qu'il aurait, je ne sais pas ce qu'il aurait pu faire, mais il avait déjà la richesse, etc. On ne voit pas très bien ce dont il avait encore besoin. Il était quand même Lévi, il était. Bon, c'est des gens qui ont un statut à part. Mais on voit qu'il a quand même un pouvoir d'entraînement. Il a fallu les enlever, un ordre d'Hachem, leur disant au peuple, le peuple, il était amassé par Korach. C'était un beau parleur, probablement. Et puis en plus, il dit des choses logiques. Qu'est-ce que vous voulez répondre si on se place, si on ne dit pas que c'est comme ça qu'Hachem a dit et pas autrement? Qu'est-ce que vous voulez répondre à l'objection de bah, si le vêtement il est entièrement en traînette, à quoi sert le fil? Alors bien sûr on peut répondre. On pourrait répondre effectivement que ce n'est pas du tout la même chose. Un tissu ou un fil, ce n'est pas la même chose. Surtout que quand on explique le fil des tzitzit, le fil bleu des tzitzit, on dit que cette couleur, elle est nommée la yam à la mer au ciel, etc. Et on monte jusqu'au trône divin. Déjà, on ne comprend pas très bien ce que ça veut dire, mais on voit bien que ça, ce n'est pas possible avec un tissu. Le tissu, il n'est pas dynamique. Le tissu, c'est là. Là, le fil. Un fil, alors on a tendance à suivre le fil. Le fil, il peut indiquer les directions, il peut Voilà, c'est le fil directeur, quelque part. Et ça n'existe pas avec une. Ça n'existe pas avec un tissu, un vêtement entièrement en traînette. On aurait pu argumenter et discuter de cela. Et certainement que Korach aurait pu l'entendre, mais il n'était pas prêt à entendre quoi que ce soit. Il n'a jamais. Il ne pose pas une question, il voulait simplement provoquer. Il n'a pas demandé à Moshé, explique-nous pourquoi un fil pourrait faire plus qu'un tissu. Il a dit à tout le monde, vous voyez bien, c'est imbécile. Il pense qu'un fil suffit et un tissu ne suffit pas. On peut donner le même genre d'explication pour la mezouza, etc. Donc, des réponses, on aurait pu imaginer qu'on allait discuter de ces questions. Non, il ne voulait pas discuter, il voulait... J'ai un peu l'impression qu'il est pris dans son propre jeu. L'impression qu'il peut... Il aurait pu peut-être descendre du train en marche, quoi, longtemps, mais non, il va jusqu'au bout. Est-ce qu'il a vraiment pensé qu'Hachem allait lui donner raison? Est-ce qu'il pense vraiment? Parce que là, il sait qu'il risque sa peau. D'accord? Il sait bien que si Hachem décide que c'est Aaron, ben eux, ils ont, après tout ce qu'ils ont dit, en tout cas, ça ira très très mal pour eux. Peut-être être mis condamné à mort pour toutes deux raisons. Il y croit et il va jusqu'au bout. Difficile de. Imaginez que quelqu'un comme Chazal dise, qu'est-ce qu'il y avait dans cette idée un peu folle pour le séduire? Qu'est-ce qui a fait qu'il a marché dans un truc pareil? C'est lui qui l'a fabriqué.
Oui. Est-ce qu'on pourrait peut-être imaginer que Korach, il désire se mettre en avant avec cette question, de même que Esav aussi pose des questions à son père sur le sel, je crois, et sur d'autres choses. Peut-être que Korach aurait peut-être une volonté de se mettre en avant et donc de montrer aussi à ses partisans qu'il il a un rôle de. Il peut, par ses questions, prendre la hauteur par rapport à son équipe.
Mais. Il ne pose pas des questions avec en écoutant la réponse. Il n'écoute jamais la réponse. Enfin, la réponse, il sait très bien ce que Moshe va répondre. Il dit à Moshe, est-ce qu'il faut des tzitzit? Il sait très bien que la réponse, c'est oui. Il veut seulement ridiculiser Moshe. Donc, c'est pas... Esav, il voulait ridiculiser personne. Peut-être qu'il voulait tromper son père encore que... Bon, si vous voulez, la question, elle est... Peut-être qu'il voulait le tromper, mais la question, elle se pose. Ça avait un sens. Les questions je sais qu'il y a des gens qui font comme si les questions des sables sur le maaser qu'on doit prendre sur la paille et des trucs comme ça, ça leur paraît ridicule. Moi, ça ne me paraît pas du tout ridicule. Au contraire, je trouve que ça se défend parfaitement. Donc, quand on sait le rôle, etc., économique de tout ça. Et en tout cas, il pose une question et il veut ridiculiser personne. La question est une question. Alors, est-ce qu'il veut connaître la vérité ou bien est-ce qu'il veut simplement se faire voir, bien voir de son père? Parce que visiblement, il tient quand même à être bien vu de son père. Il tient à une bracha de son père. C'est pas, quand il pleure sérieusement. Hein. C'est pas comme ça pour la frime. Il pleure vraiment quand il n'y a pas de bracha. Il veut vraiment une bracha. Qu'est-ce qu'il veut en faire, etc. Ça, c'est... Peu importe. Il veut vraiment une bracha. Bon, je ne dirais pas que Korach, là, il est parti pour ridiculiser Moshe et pour contester toutes les nominations de Moshe, donc la position de Moshe lui-même. Il dit, tu n'aurais pas dû nommer ton frère, etc. C'est clair. Donc, quand on dit, tu n'aurais pas dû nommer, il sait très bien que la réponse de Moshe, c'est pas moi qui ai nommé Aaron. Je n'ai jamais nommé Aaron moi-même. Hachem a donné l'ordre de nommer Aaron. Et donc, il sait ce que sera la réponse. Mais il veut dire que la réponse, que c'est faux. En réalité, c'est Moshe qui place ses pions là où il place qui il veut, à la place où il veut qu'il soit. C'est ça la contestation complète de la démarche de Moshe.
Excusez-moi, j'avais une autre question.
Oui.
Oui, donc là, on dit que Korach, en fait, finalement, il excite, enfin, il conteste et ridiculise Moshe, mais est-ce qu'on ne dit pas que c'est un homme intelligent, connaisseur en Torah, et que par sa Torah, il excite, enfin, il excite son maître ou.
Qu'est-ce que vous voulez dire? Korach, c'est Pikéar. Je n'ai jamais entendu qu'on dit pas Raham. Pikéar, c'est Pikéar, ça veut dire. Assez pointu, quoi. Quelqu'un d'intelligent, en tout cas. C'est pas un crétin. Mara le shtutze. Dans la même phrase, on dit toute cette théorie, c'est une bêtise. Comment il a pu donner du crédit à cette bêtise-là? Enfin, c'est lui qui l'a inventé, mais comment est-ce qu'il a pu penser que ça va marcher? Je veux dire, il amène de l'encens. Ils sont prêts à des procédures. Il ne comprend pas que ça ne peut pas marcher, son truc. J'ai toujours beaucoup de mal. Ça, c'est assez difficile pour moi, en tout cas, de comprendre ce que Korach espère, disons, dans cette situation-là. Pas très bien. Enfin, c'est la question de Chazal, d'ailleurs, en réalité. Qu'est-ce qu'il a vu de Shtutze? C'est lui qui était intelligent. Mais c'est peut-être une leçon que quand quelqu'un il développe, il veut quelque chose, alors la Mida qui est en lui, elle est capable de fabriquer une construction avec des arguments. Kolaïda Kulam Kondushim, c'est vrai. On a tous entendu la parole d'Hachem, c'est vrai. Logiquement, le trellet, si tu n'entres pas dans la définition du fil, si tu n'essaies pas de donner quelque chose qui fasse la différence entre un tissu et le. Et un fil, et ben il a raison, Korach. Qu'est-ce qu'on a besoin de. Si la couleur elle-même est quelque chose qui va nous inspirer, ben c'est tout. Un vêtement de trellette, ça devrait suffire. Un instant, s'il vous plaît. Excusez-moi. Oui, alors je n'ai pas beaucoup de réponses sur. J'ai beaucoup de questions.
Sur la paracha précédente à Shlach Lecha, on a dit à propos du.
Shlach Lecha ou Shlach Lecha? Shlach Lecha, oui.
Oui, oui.
Shlach Lecha, la précédente.
Oui, 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 précédente. On a dit à propos du ramasseur de bois, donc. En fait, c'est le Targum Yonatan, Yerushalmi, qui dit qu'il a profané le Shabbat pour montrer à tous les conséquences de son acte.
C'est ça.
Les interrogations qu'on a aujourd'hui, elles sont exactement, si je peux dire, parallèles à celle qu'on a par rapport au ramasseur de bois. Pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas dire qu'il en est de même pour Korach?
Je ne comprends pas du tout la question.
C'est-à-dire qu'on est arrivé, on voit qu'il y a une évolution, on voit qu'il y a une évolution qui va de remise en question de Moshe Rabbeinu, de son autorité, de ce qu'il est. Bon, ça a commencé avec Myriam qui a ouvert la première brèche, après c'est les Meraglim. Et donc, il y a, parce que le comportement de Korach est complètement incompréhensible. Alors, évidemment, il y a tous les Mefarshim, toutes les explications que l'on a, qu'il a été mal conseillé, que sa femme, etc., etc. Très bien, mais on remet en question Moshe Rabbeinu. Or, qu'est-ce qu'on dit à propos donc du ramasseur de bois? On dit que c'est volontairement qu'il l'a fait. Il l'a fait volontairement pour que justement, pour relever donc que c'est une faute et pour que finalement on a la réponse à ce moment de doute qui vient. On le voit s'instaurer et là, les réponses, on les a, parce que c'est quand même extraordinaire.
Écoutez, je peux répondre. Il n'y a absolument aucun doute là-bas. Le Mekoshe Shetzim, il veut montrer autre chose. Le Mekoshe Shetzim, il pense que les lois qui ont été données avec les sanctions, on n'en voit pas la couleur. Donc ça peut paraître très artificiel, etc. Il voulait montrer qu'effectivement, on applique la règle. Mais en fait, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Ça n'a rien à voir avec un doute. Il n'y avait absolument aucun doute chez le Mekoshe Shetzim. C'est le père des filles, c'est Slofrod, le père des filles en question qui vont créer une parcha dans la Torah.
Ah non, mais chez lui, il n'y a aucun doute, c'est clair.
Vous pouvez pas, je ne peux pas expliquer. Il n'y avait absolument aucun doute chez lui. Aucun doute, c'est pas par doute qu'il a agi. Il a agi pour montrer, pour faire peur aux gens, montrer qu'effectivement, quand la Torah dit que c'est gravissime, c'est effectivement gravissime et qu'on en meurt, on peut en mourir. Korach, il n'est pas du tout là-dedans. Korach, il ne veut pas du tout montrer quelque chose de positif. Korach, il se révolte contre Moshe Rabbeinu. Le Mekoshe Shetzim, ce n'est pas du tout révolté. Le problème de Mekoshe Shetzim, c'est tout un tout autre problème, c'est que la halakha, elle est que si on fait une melakha, shena tzricha l'gufa, que quand on fait une melakha qui n'est pas pour elle-même, alors on n'est pas chayav. Or, lui, il n'a pas du tout ramassé du bois pour le brûler, etc. Il a ramassé du bois pour faire la démonstration que la halakha, elle allait se faire respecter et qu'il y aurait une sanction. Ça veut dire qu'en vérité, ce qui s'est passé pour lui, probablement, ça doit entrer dans la catégorie de Horaat Shaa. Ça veut dire que c'est une mise entre parenthèses de la halakha, puisque la halakha, normalement, si on l'avait jugé avec les lois telles qu'elles sont aujourd'hui, les lois de la Torah, jamais on n'aurait condamné le Mekoshe Shetzim à mort. Il n'a jamais ramassé du bois pour le brûler. Il n'était pas en train de faire du bois chez lui. Il a ramassé du bois pour montrer que c'était une melacha et que c'est sur une seule melacha, on est passible de mort. Il voulait le montrer. C'était sa démonstration. C'était pas que. Alors, on savait pas ce que. On peut penser effectivement qu'en réalité, c'était pas évident du tout qu'on allait pouvoir le condamner à mort parce que sa démonstration, elle ne marche pas. Parce que si vous faites une démonstration. Alors, vous n'êtes pas dans le réel, quoi. C'est comme, il n'était pas dans le réel de la transgression du Shabbat. Il était dans une démonstration que la transgression du Shabbat avait des conséquences gravissimes. Mais c'est pas, là-dessus, on n'est pas à Yavmita. Bon, ça, c'est un point, ça, c'est, puisque vous avez évoqué ce point-là, alors, je vous dis ce qu'il en est. Mais ça n'a rien à voir avec la démarche de Korach, absolument rien. Effectivement, les choses ont changé dans le rapport du peuple avec Moshe de façon générale. Ça, c'est quelque chose dont on a déjà parlé. Les Bnei Israël avaient tellement l'habitude que Moshe Rabbeinu à chaque fois, comme on l'a vu ici quand, dans le machal que je vous ai lu, à chaque fois l'ami du roi, il intervient à chaque fois, et la quatrième fois, il dit « j'en peux plus », parce que Moshe Rabbeinu les a toujours sauvés. Au veau d'or, il a parlé, à chaque fois, les trois fautes là, qui ont été faites, Moshe Rabbeinu leur a sauvé la vie. Et là, il ne les a pas sauvés. Et donc, quelque part, eux, ils ont fait comme si, bon, alors Moshe, ou bien il n'a plus le pouvoir qu'il avait, ou il ne veut plus nous faire de nous aider, etc. Mais en réalité, je crois que l'explication la plus simple pour... mais c'est pas ce que Rashi dit simplement que Moshe Rabbeinu, c'était, il en avait marre, et que Hachem lui-même aussi en avait marre. Mais l'explication, me semble-t-il, la plus simple, c'est ce que je vous ai ramené souvent, que ce que Moshe Rabbeinu a obtenu au moment du Reta Egel, il a obtenu un sursis. Les Bnei Israël ont été condamnés à mort à ce moment-là. Et Moshe Rabbeinu a obtenu un sursis. Et le sursis est tombé à cause des Meraglim. Les Meraglim, ils n'ont pas été condamnés à mort seulement pour ce qu'ils ont fait, mais aussi parce que ça venait comme continuation de la faute du veau d'or. Et donc, quand il y a là, Moshe Rabbeinu ne pouvait rien faire puisque il avait déjà obtenu le maximum. Là, maintenant, quand le sursis est tombé, il ne pouvait plus rien faire. Donc, il n'a pas pu sauver complètement les Bnei Israël. Il y a quand même toute la génération des hommes, en tout cas, qui en est morte. Et du coup, ça a mis un... On voit très bien qu'à partir de ce moment-là, ça tourne. À partir de ce moment-là, tout à coup, les Bnei Israël n'ont plus obligatoirement confiance en Hachem. Là, on voit chez Korach, on va voir par la suite aussi des révoltes qui, avant, n'étaient pas possibles. C'était est-ce qu'on aurait toléré que quelqu'un parle comme ça à Moshe Rabbeinu dans la première partie de la Torah? Jamais. Mais celui qui aurait ouvert la bouche contre Moshe Rabbeinu aurait été lapidé à la Makom. Personne. Et maintenant, quelqu'un peut ouvrir la bouche et personne ne réagit. Personne n'est réagi sur tout ce qu'il dit contre Moshe Rabbeinu. Personne. Pourquoi? Parce que quelque part, le peuple n'a plus autant confiance en Moshe. Est-ce que c'est simplement parce qu'il pense qu'il ne peut plus ou bien parce qu'il ne veut plus? Ça, je ne sais pas.
Oui, mais c'est ce que j'ai appelé de façon résumée le doute. Et finalement, l'intervention de Korach, alors on peut le dire indirectement ou directement, ça c'est une question après d'appréciation, mais à lever le doute. Parce que finalement, qu'est-ce que fait Moshe Rabbeinu? Pour trancher, il demande à Kadosh Baruch Hu directement. Alors, on ne peut pas avoir meilleure, si je peux dire, démonstration. C'est extraordinaire. Si aujourd'hui on pouvait résoudre tous les problèmes qu'il y a, justement, si on actualise aujourd'hui avec ce qui se passe au niveau d'Eretz Israël et des élections, etc., etc., si on pouvait tout simplement dire, mais je vais demander à Hachem et Hachem va trancher, c'est formidable. Ce serait formidable.
Non, ce ne serait pas formidable du tout. Parce que ça n'a été fait ici que parce qu'on ne pouvait pas faire autrement, parce qu'ils n'entendaient pas, on ne pouvait pas leur faire entendre raison. Normalement, Moshe Rabbeinu a essayé de lui parler. Il lui a parlé, une fois il lui a parlé durement, je vous ai dit, une fois il lui a parlé Vayomer, il parle doucement, etc. Ça ne marche pas. Il est totalement fermé. Il est dans son truc, il est dans sa bulle, Korach, et il va dans sa bulle jusqu'au bout. Jusqu'à la mort, en fait. On ne pouvait pas. Donc, mais c'est désastreux de devoir demander à Hachem. Demander à Hachem, si vous voulez, c'est devoir en revenir à une situation d'un Klal Israël qui est encore dans l'enfance. Aujourd'hui, on parle. On va vers quoi? On va vers l'entrée en Eretz Israël. L'entrée en Eretz Israël, c'est quoi? Ça veut dire que désormais, il va falloir faire le travail tout seul. Hachem va aider, mais on va sortir, on va arrêter de manger de la manne, de boire de l'eau de pluie de Myriam, d'avoir des nuées pour nous protéger. Il s'agit de devenir adulte. Quand on n'arrive pas à résoudre le problème, on est obligé de demander à Hachem de résoudre le problème, ben c'est un échec. Le peuple, il a régressé énormément, puisque maintenant, il n'écoute plus les prophètes, quelque part. Ils n'écoutent plus la Torah orale. C'est gravissime. Voilà. On va s'arrêter là parce qu'on a déjà dépassé largement l'heure. Excusez-moi.
Merci.